Cinquième cours. Donc aujourd'hui, le sujet du cours va porter sur les processus d'organogénification et en particulier la réplication de ces systèmes pour créer donc des systèmes minéraux hybrides par réplication en utilisant finalement des gabarits supramoléculaires. Je vais en décrire un certain nombre dans la première partie et dans la deuxième partie, je vous montrerai quelques images de systèmes qui peuvent être répliqués ou qui ont été répliqués. Donc tout d'abord, le gel, qu'est-ce que c'est ? Bon, donc c'est un état de la matière fascinant, mais il ne faut pas s'arrêter, je dirais, à la définition de Lloyd qui disait que c'est un état plus facile à reconnaître qu'à définir. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, le nombre de caractérisations physico-chimiques qui sont à portée de main du chimiste et du physicien permettent finalement de caractériser ces états de la matière qui sont un petit peu particuliers, mais qui sont caractérisables. Donc en général, les gels sont des matériaux non cristallins qui ont un aspect solide et donc qui sont formés en fait d'un réseau tridimensionnel qui emprisonne un solvant. En général également, les propriétés rhéologiques et mécaniques de ces systèmes sont associés à des solides qui sont plutôt décrits comme des systèmes mous, plastiques ou élastiques. Et donc, ces gels peuvent être également opaques ou transparents. Et la transparence va dépendre en particulier du maillage du filet et des indices de réfraction relatifs, en fait, du solvant et du réseau, donc du filet qui constitue le gel. Donc, il y a deux catégories de gels, donc ce qu'on appelle les gels chimiques, où le filet est réticulé par des liens covalents. En général, ce sont des systèmes qui ne sont pas thermoréversibles, mais qui sont tout de même déformables. Et donc, comme exemple, il y a les polyesters, les polyamides, pas mal de polymères, alcool polyvinylique, et puis des gels que vous connaissez très bien, en particulier les collègues du laboratoire, ce sont bien entendu les gels de silite, qui sont des gels, je dirais, avec des nœuds de réticulation physique. En ce qui concerne les gels physiques, la différence, c'est que les associations se font via des liens non covalents. Ils sont également thermoréversibles. Dans ce cas-là, ils sont thermoréversibles et ils sont déformables. Alors, les constituants, finalement, du filet, du réseau, peuvent être de simples molécules, des oligomères, des clusters, mais également des polymères. Et pour ceux qui ont des enfants en bas âge, vous connaissez bien les gels, je dirais, à base de polyacrylate qui sont indispensables au jour d'aujourd'hui. Alors, si on regarde maintenant, si on se centre sur l'aspect organogel et hydrogel, je dirais que la différence entre les deux, c'est la nature du solvant pour l'essentiel. Dans le cas des hydrogels, le solvant est l'eau, et dans le cas des organogels, le solvant est un solvant organique. Comment obtient-on finalement un système de type gel, organogel ou hydrogel? Donc je reste dans les gels physiques dans ce cas-là. En général, par solubilisation d'un soluté dans un solvant, qui peut être l'eau ou un solvant organique. Cette solubilisation nécessite, dans de nombreux cas, une augmentation de la température pour former finalement des structures anisotropes qui ensuite réticulent au moment où on redescend la température pour former finalement des réseaux réticulés, mais via des interactions non covalentes. Et la formation en fait de ces réseaux supramoléculaires, ce sont des processus d'auto-assemblage qui mettent en œuvre en fait tout l'arsenal des liaisons en fait qui enrichissent la chimie supramoléculaire. Pour n'en citer que quelques-unes, les liaisons hydrogènes, des liaisons du type donneur-accepteur, les interactions pi-pi, les interactions électrostatiques, les liaisons par coordination de métaux, tout ce qui est interaction solvophobe ou hydrophobe dans l'eau, et bien évidemment les interventions de type dipôle, de type van der Waals. Donc en fait, c'est le couplage en fait de toutes ces interactions dites faibles mais coopératives et les interactions avec le solvant qui créent des systèmes à base de gel. Donc voici un exemple de molécule d'organogélifiant basée sur une partie stéroïdique et vous voyez une partie anthracène qui est un système pi-pi conjugué qui conduit à la formation de gel pour des petites quantités. Alors ça, c'est une des caractéristiques de la plupart des organogels. La gélification a lieu pour des quantités infimes de molécules organiques, des concentrations aux alentours de 1 à 2% en poids. Et donc ces structures, en général, sont des structures, vous voyez, fibreuses. Et je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Donc, en fait, les gels peuvent forcément être sortis de leur flacon, on peut vraiment les manipuler, c'est un solide, hein, Donc on peut en faire des matériaux. Alors au niveau donc, des gels physiques, je reste encore sur le organogel et hydrogel. Donc du côté des hydrogels, des systèmes que vous connaissez bien, ce sont par exemple, les gels à base de collagène ou bien d'autres types de gels à base de protéines ou de polypeptides synthétiques. Donc ça, c'est énormément utilisé. Je vais vous montrer quelques applications dans le transparent suivant. Et du côté des organogels, c'est peut-être c'est sur cette partie-là que portera l'essentiel de l'exposé, c'est-à-dire l'utilisation de molécules organiques et de cette chimie supramoléculaire organique pour créer ces réseaux, ces filets, dans lesquels en fait, le solvant est retenu essentiellement par des interactions non covalentes diverses, ce que je viens de vous mentionner précédemment, et également par phénomène de tension superficielle. Alors, pour remplir en fait, un volume conséquent avec très peu de matière, il faut que les agrégats formés soient des objets anisotropes. Et très généralement, en fait, les réseaux d'organogels sont formés à partir d'agrégats qui ont la forme de plaquettes, de rubans, de fibres, de cylindres ou de fagots de fibres, et que l'on visualise, je dirais, dans un premier temps, via des méthodes de type microscopie, en particulier par cryomicroscopie, puisque, a priori, on veut également observer, finalement, l'agrégat, en fait, dans son état réel, dans le solvant. Alors, énormément, en particulier de fibres et de cylindres, dans les systèmes à base d'organogélateurs. Au niveau donc, de quelques propriétés ou quelques applications de ces systèmes, eh bien, les organogels et hydrogels sont utilisés en pharmacologie, cosmétique, vectorisation, par exemple des vecteurs transdermiques à base de puronique lécithine pour la délivrance de principes actifs. Ce sont des systèmes qui sont commerciaux depuis pas mal d'années. Dans l'ingénierie tissulaire, dans tout ce qui concerne l'alimentation, ceux qui adorent les jelly anglaises se rendent bien compte que ces superbes gels sont à base en fait, de molécules qui, elles, sont biocompatibles, en général des molécules à base de pectine. Au niveau donc, des applications, une des applications importantes, c'est tout ce qui est stabilisation des essences et des lubrifiants, puisque pour des très petites quantités de molécules, on arrive à geler, finalement, à geler en particulier des essences et du pétrole. Et ça, ce sont des systèmes qui sont utilisés dans la récupération, en fait, du pétrole quand il y a pollution. Et également, les organogels sont utilisés dans la restauration des œuvres d'art. C'est l'exemple que je vais développer en deux minutes, puisque j'ai vu que Nikki était dans la salle, donc j'ai choisi plutôt un exemple concernant les œuvres d'art. Alors, par exemple, quels sont les avantages à utiliser des organogels pour nettoyer, par exemple, des tableaux peints ou des sculptures en bois ? Alors, l'exemple que j'ai choisi est le suivant. En fait, ce sont des organogels qui sont générés en fait en utilisant de la polyalylamine dans le pentanol en présence de CO2, ce qui permet finalement de transformer le polymère de départ en carbamate et l'ammonium complémentaire, ce qui donne des propriétés organogélifiantes très marquées au système. Alors, l'intérêt, c'est que, évidemment, ce sont de bons adsorbants. On minimise les forces de frottement puisqu'on peut faire directement une application et une imprégnation et donc récupérer, je dirais, les parties colorantes que l'on veut enlever en fait, au tableau en cours de restauration, mais que dans un deuxième temps, finalement, on déplace simplement le sel qui a été formé par action du gaz carbonique, soit en faisant passer un second gaz qui déplace l'équilibre, ou simplement en utilisant un acide dilué tel que l'acide acétique. Et donc, ça permet, dans un deuxième temps, de renettoyer le tableau. Et donc, c'est une méthode qui, au jour d'aujourd'hui, est déjà utilisée. Alors, au niveau donc, des organogels, comment les mettons en évidence ? Bon, alors, il y a la méthode, je dirais, la méthode objectif la plus simple, donc, c'est de partir d'un composé organique, de le dissoudre dans un solvant. En général, on dissout et on chauffe pour cette dissolution. Et puis, on passe une certaine température, on revient en dessous de la température de transition sol-gel, et c'est là que se forme le réseau en fait, d'agrégats anisotropes pour former le gel. Donc ça, c'est Je dirais que c'est simplement une description phénoménologique. Mais bien entendu, ces systèmes, au jour d'aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas, je dirais, il y a 50 ans, peuvent être caractérisés par un ensemble de techniques couplées, en général, des microscopies en transmission, en balayage, avec des modes cryo en cryofracture. Également, beaucoup de travaux qui sont basés sur de l'AFM. Pour certains systèmes du dichroïsme circulaire, quand ça s'y prête, c'est-à-dire quand il y a des carbones asymétriques, les spectroscopies, je dirais, de base que l'on utilise en chimie organique, les propriétés rhéologiques permettent également d'avoir un certain nombre de caractérisations, mais au niveau des structures des agrégats, l'essentiel des caractérisations sont basées soit sur la diffraction ou de la diffusion des rayons X, également bon, au niveau de la thermodynamique un peu plus fine. En fait, il y a pas mal d'études basées sur des mesures calorimétriques. Donc, au jour d'aujourd'hui, ces systèmes qui sont, après tout, assez difficiles à appréhender, sont relativement caractérisables en utilisant en fait, cet ensemble de techniques. Donc, ce que je voulais vous montrer, justement, dans les transparents suivants, c'est l'évolution de la formation d'un gel à partir de cette molécule d'organogélifiant qui est, vous voyez, constituée d'un groupe cholestérique avec un espaceur de type ester, un système aromatique pi conjugué et puis quand même une petite chaîne carbonée en bout pour mettre un petit peu de désordre. Je reviendrai sur les aspects, les conditions finalement pour former des organogels. Et donc ce système-là, vous voyez, a des taux très faibles en concentration, 1,3% en poids, permet d'obtenir des gels dans l'octanol avec une température de transition sol-gel de 60 degrés. Donc ces gels sont formés, c'est ce que vous voyez ici, c'est le cliché AFM, sont formés de faisceaux de fibres très longues, hein, de plusieurs dizaines de microns, avec des largeurs de l'ordre de 100 à 500 nanomètres. Ça, ce sont les gros fagots de fibres. Mais quand on regarde en plus en détail, en fait, ce sont des fagots qui résultent de l'agrégation de fibrilles beaucoup plus minces, de l'ordre de 7 nanomètres de diamètre et d'environ 250 nanomètres de long. Alors, en fonction du temps, le suivi de la formation de ce type d'organogèle, vous voyez, on dépose à chaud, puisqu'il faut chauffer pour former, enfin, pour passer au-dessus de la transition sol-gel, on dépose à chaud sur une plaque, en fait, c'est une plaque de carbone dans ce cas-là, et on suit par AFM. Donc, à temps égal zéro, au bout de 10 minutes, cette illustration vous permet de voir également le temps que va mettre le système à former finalement ces réseaux de fibres. Au bout de 10 minutes, la première observation, c'est un démouillage finalement vis-à-vis du substrat, ce qui montre qu'en fait, il y a déjà un système, une énergie de cohésion beaucoup plus marquée entre les molécules organiques et le solvant qui sont en train de se créer. Puis, lorsque le temps passe, vous voyez, 15 minutes, on observe toujours ces effets de démouillage et puis quelques petites fibrilles qui se forment et des îlots. Puis au bout de 18 minutes, des fibres qui commencent à être plus grosses et qui commencent à s'agréger en fagots. Ces fagots de fibres sont encore plus visibles, je dirais, au bout de 21 minutes. Et là, on voit qu'on obtient en fait des fagots qui commencent à avoir les largeurs en fait, finale en fait, du système organogène, c'est-à-dire 100 à 500 nanomètres, pour finir, je dirais, au bout d'une trentaine de minutes. Donc, c'est un processus qui prend à peu près une demi-heure, hein, donc depuis la solution homogène chaude jusqu'à la formation du gel, pour former justement ces agrégats de fibres. Alors, au niveau, donc, quand on augmente la résolution pour regarder ce qui se passe au niveau des fibrilles, on voit que cet organogel est formé en fait de fibrilles de 6,2 nanomètres, donc très petite taille, séparées en fait de 5 nanomètres. Et donc, à l'aide d'un ensemble de données de rayons X et de modélisation, en fait, ce système organogélifiant à base donc de cholestérique et d'aromatique peut être modélisé de la façon suivante. Alors, il y a eu des données, en fait, des analyses complémentaires qui ont été faites. Par exemple, pour une teneur de 1,6% dans l'octanol, eh bien, vous avez un gel très stable, mais en fait, 30% des molécules de l'octanol uniquement sont piégées au sein des fibrilles. Vous avez 70% en fait, des molécules d'octanol qui sont échangeables. Par exemple, si vous essayez d'obtenir un organogel dans un autre solvant, c'est-à-dire dans l'hexane, à ce moment-là, ça ne marche pas. Mais par contre, dans un mélange octanol-hexane, à condition d'avoir un minimum de 30% d'octanol, eh bien, ça vous permet de former l'organogel. Ce qui veut dire qu'au niveau des interactions structurantes et importantes, l'organogel utilise en fait 30% des molécules d'octanol, hein, donc ça fait quand même plus de 150 molécules d'octanol pour 1,6 molécules d'organogélifiant. Donc au niveau de la structure, en fait, ce qui est proposé, c'est un modèle, vous voyez, en escalier hélicoïdal de ce type. Bon, évidemment, il y a des carbones asymétriques sur la partie cholestérique. Donc vous avez donc les marges de l'escalier correspondent au cholestérol. La rampe en fait est faite par les groupements esters et en bout vous avez les systèmes aromatiques de type stilbène. Alors le réflexe, est bien évidemment, je dirais pour les gens des matériaux, c'est de se dire on a un système stilbénique. Ça veut dire qu'on a une isomérie cis trans qui est possible et avec ça on va pouvoir s'amuser. En effet, donc si vous avez la structure de l'organogel en escalier en colimaçon avec la forme trans, lorsque vous irradiez le système, vous avez un système qui est photochrome, donc vous passez à la forme cis, qui, elle, change complètement de configuration. Et donc, ceci est réversible sous lumière visible et UV. Donc, vous passez d'un état à 25 degrés, vous passez d'un état gel à un état liquide, puis d'un état liquide à un état gel. Donc, c'est un système qui est rhéocommutant. Et donc, en particulier, à cause des assemblages supramoléculaires des agrégats à plus grande distance, vous avez un système qui est actif au niveau du croïsme et l'autre qui ne l'est pas. Et donc, ça, c'est un travail qui a été fait par le groupe de Shinkai au Japon. Et vous verrez, je citerai beaucoup, en fait, ce groupe et d'autres groupes japonais qui sont finalement parmi les groupes qui ont énormément travaillé et contribué à la chimie de ces systèmes à base d'organogélataires. Ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la transmittance en fonction de l'irradiation visible ou UV. Donc vous commutez en fait d'un système en escalier à un système refermé, et d'un état liquide à un état gel. Alors les molécules en fait qui permettent finalement d'obtenir des gels, tout ce qui est organogélification, il y en a des milliers pour être très clair. Donc ici, ce que je vous montre, c'est une molécule qui a été très utilisée. C'est un cyclohexane à base de fonctions diamide. Il faut en fait des systèmes qui puissent engager des réseaux de liaison hydrogène. Il faut également, dans de nombreux cas, à la fois avoir des parties, je dirais, qui peuvent faire des interactions de Van der Waals, créer un petit peu de désordre parce que pour obtenir un organogel, il faut quand même éviter la cristallisation. Il faut être capable finalement d'induire des défauts dans les systèmes. Et donc, en général, ce que vous formez, ce sont des réseaux anisotropes 1D ou 2D. Vous voyez schématisé de cette façon-ci, en engageant pour l'essentiel un réseau de liaison hydrogène. Alors, justement, les interactions moléculaires. Qui en fait gère à la fois les interactions moléculaires entre molécules d'organogélifiant et entre ces molécules et le solvant, gère finalement la formation des agrégats, mais ce sont des systèmes qui sont très subtils. En fait, changer une petite chose sur une molécule, le chimiste comprend, et vous verrez justement l'exposé que va nous faire Yvan Huc va vous mettre vraiment le point sur l'importance en fait de certains groupements et de certaines interactions, mais en fait des toutes petites modifications font que le système va pouvoir former un gel ou non. Par exemple, à gauche, voici des dérivés de l'acide cinnamique et de la dicyclohexylamine. Donc le mélange va permettre de former des sels qui gélifient finalement un certain nombre de solvants, dont par exemple des alcanes et des dérivés du pétrole, mais vous voyez que, en fonction de la substitution, indépendamment de la nature du groupement, en fonction de la substitution, il y a des systèmes qui vont être des gélateurs efficaces et d'autres qui ne vont pas du tout geler, en particulier dès que vous avez des groupements en position 2, eh bien, ces systèmes ne donnent aucun gel alors que les autres en donnent. Un autre paramètre qui est important, indépendamment des liaisons hydrogènes que ces systèmes peuvent développer, c'est l'obtention d'un réseau conjugué d'électrons pi. Vous voyez, dans le cas du cinnamate, vous avez un début de conjugaison avec cette double liaison. Par contre, lorsque vous utilisez des molécules qui, pour les gens des matériaux, vu de très loin, ressembleraient à un cinnamate, ce ne sont pas des cinnamates, bien entendu, des dérivés de l'acide benzoïque, eh bien, aucune de ces molécules-là ne donne, en présence de dicyclohexylamine, de gel. hein, donc pas de gélation. Donc des petites modifications, et ça va être ça, je dirais, toute l'astuce, c'est d'arriver à bien comprendre quelles sont les modifications sur une molécule, arriver à avoir une photographie d'une molécule et de dire, bon voilà, si je modifie à tel endroit et tel endroit, je vais orienter mon système vers la formation d'un gel ou pas, etc. Alors, par exemple, je voulais insister justement sur la subtilité de ces interactions supramoléculaires. Donc ça, ce sont des systèmes qui gélifient très bien. En fait, ce sont à nouveau des systèmes à base d'halogénocinamate. Donc il y a eu des structures qui ont été modélisées et étudiées. Vous voyez, on voit très bien le réseau de liaison hydrogène entre le cation dicyclohexylammonium et puis les extrémités des carboxylates du cinamate. Et donc, à nouveau, vous voyez, les toutes petites fractions en poids de l'ordre de 2,5% pour former des gels dans ces réseaux-là. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, indépendamment de la connaissance que l'on a du choix des maillons moléculaires qui permettent d'orienter vers la formation d'un organogel ou pas, il y a évidemment les interactions dans l'agrégat entre molécules, mais il y a également toutes les interactions avec le solvant, et le solvant est un partenaire qui est loin d'être négligeable. Alors, ces interactions supramoléculaires, je dirais, pour mettre un petit point de poésie, je dirais, elles sont très intéressantes à contrôler, elles ont la délicatesse, la finesse, la précision, je dirais, la subtilité. Vous voyez, j'ai trouvé une image d'un oiseau-mouche butinant une fleur. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment arriver à avoir un contrôle avec une précision absolument extraordinaire. Et ça, c'est le travail des chimistes en supramoléculaire qui sont brillants. Et donc, c'est conduire à la formation d'organogels, évidemment, c'est de façon contrôlée et robuste, c'est d'être capable de bien gérer les interactions supramoléculaires de telle façon qu'elles soient fortes, que certaines soient directionnelles. Il y a beaucoup de systèmes à base de liaison hydrogène. Mais également que votre système vous permette de faire des agrégats, je dirais que j'ai classé de entremêlés, entrecroisés, mais également qu'il y ait des maillons dans la molécule, et je pense que Yvan vous en parlera, qui permettent finalement une certaine imperfection hein, pour que le système ne cristallise pas. Bon, je dirais les plus simples qui sont décrits dans la littérature, c'est de pouvoir avoir des carbones asymétriques ou bien des chaînes alkyles hydrophobes. Ce sont en fait deux conditions que j'ai relevées dans la littérature. Alors, au niveau donc, de la diversité des molécules organogélifiantes, bon, bah, je vais vous en montrer quelques-unes très rapidement, mais sans trop m'étaler. Donc, il y a pas mal, vous voyez, des dérivés à base de l'acide hydroxystéarique. Vous retrouvez des parties de molécules qui vont donner des liaisons hydrogènes et puis une composante fortement hydrophobe. Pas mal de dérivés d'acides aminés, mais également, vous voyez, avec une partie, une chaîne assez longue, il ne faut pas que le système soit trop parfait. Des parties à base de cyclohexane, des amides du cyclohexane. Je reviendrai plus en détail sur cette partie-là au moment où je vous parlerai de la minéralisation. Des dérivés de l'acide cholique, des dérivés de l'urée, mais on ne prend pas un dérivé de l'urée simple. Vous voyez, il y a le couplage des ions hydrogènes, il y a les parties aromatiques, et puis il y a l'agent créateur d'un petit peu de désordre parce qu'il ne faut pas que le système soit parfait. Donc d'autres exemples, exemple très étudié au niveau de la physicochimie, c'est tous les dérivés de stéroïdes avec bon, une partie cholestérique et puis une partie, je dirais, conjuguée pi, avec, ça c'est une molécule d'anthracène, c'est l'exemple que je vous ai montré au niveau du suivi par microscopie en force atomique. Alors d'autres exemples basés sur en gros les mêmes molécules avec des maillons terminaux qui permettent finalement de modifier les charges. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure concernant ce genre de molécules. Et en particulier là, juste pour en passant, je dirais, un exemple qui est... Vous voyez cette molécule-là, elle est un très bon organogélateur avec un système conjugué. Vous modifiez à peine ici, à peine, c'est beaucoup peut-être pour un chimiste, mais ce n'est pas une modification importante. Vous remplacez ces groupements quinone par des groupements OCH3 et le système ne gèle plus. Alors, donc, il y a énormément de travaux qui sont faits sur des couples, en fait, des couples de type sel avec des guanylinium alkyl benzène sulfonate ou bien des dérivés de l'acide trimésique. Sous la forme amide, ils donnent de très beaux organogels, mais également sur la forme acide carboxylique. Je vous montrerai des exemples de gels hybrides qui sont obtenus grâce à l'acide trimésique. Et puis également, vous voyez, des dérivés à nouveau où la conjugaison pi est fortement marquée, de l'anthracène ou de phénazine, mais où il faut également un peu de chaîne carbonée pour que ça marche, pour que justement on obtienne des organogélateurs. Et si vous regardez cette molécule-ci, au niveau de ses propriétés de gélation, la molécule protonée une fois est bien meilleure au niveau de la qualité et la stabilité de l'organogel que la molécule neutre, ce qui se comprend puisque vous commencez à engager un réseau de liaison hydrogène beaucoup plus marqué. Par contre, si vous protonez deux fois la molécule, à ce moment-là, vous avez à nouveau une diminution des propriétés d'organogélation, simplement parce qu'il faut être optimum sur le taux de protonation. Alors, d'autres exemples que j'ai trouvés dans la littérature, ce sont des associations que j'ai trouvées un petit peu intéressantes. Cette unité lipidique dérivée de la glutamide, porteuse finalement d'un C60 type fullerène, gèle très bien le toluène et le xylène, mais gèle encore mieux une plage beaucoup plus large de solvant à partir du moment où on la couple avec une unité tétrathiofulvanène. Donc, en faisant des associations donneur-accepteur, eh bien, on augmente finalement le pouvoir gélifiant de ces systèmes et on change également la morphologie des agrégats. On obtient, vous voyez, en particulier dans le cadre du couple TTF-C60 organogélifiant, on obtient donc des pelotes d'aiguilles en fait, organogélifiées. Donc, dans la série du nombre d'exemples que je balaye très rapidement, des molécules qui sont connues pour interagir fortement via les empilements pipi, ce sont tout ce qui concerne les porphyrines et les phtalocyanines, qui sont modifiées également pour éviter finalement la formation de solides agrégés, pour permettre finalement à ces systèmes de gélifier. Et également quelques exemples plus récents, je dirais, où dans lesquels la brique qui va servir d'organogélateur, en fait, c'est déjà une brique elle-même hybride, c'est un cluster. Certains oxoclusters, d'ailleurs, qui ont été énormément travaillés au laboratoire, sont finalement des organogélateurs très, très, très intéressants. Alors, en ce qui concerne maintenant la relation organogèle et matériaux et minéralisation, la réplication de l'organogel peut être assurée, je dirais, via en fait la combinaison en fait de ces édifices supramoléculaires formant l'organogel et de polymères minéraux ou organiques qui, eux, vont polymériser en formant des réseaux de liaisons chimiques covalents ou ionocovalents. J'irais pour l'essentiel des travaux à l'heure actuelle dans la littérature, j'irais une grande quantité des travaux sont centrés sur un polymère minéral, la silice, parce que la silice est plus facile à manipuler, parce qu'au niveau topologique, l'enchaînement de tétraèdres par sommet, eh bien, c'est quelque chose qui ajuste mieux les courbures par rapport à d'autres types d'oxydes métalliques. Mais on trouve déjà des exemples avec des oxydes de type TiO2, des hybrides organominéraux, des métaux, des chalcogénures, et également forcément des répliques en organique. Et également quelques exemples que je vous montrerai juste à la fin du cours, où l'organogélifiant lui-même est un précurseur organominéral. Alors, quelles sont les voies principales qui permettent d'accéder en fait, à la réplication et à la biominéralisation ? Alors, bon, de façon assez simple, j'ai découpé ça en trois voies principales. Une voie qui est basée sur ce qu'on appelle de la post-imprégnation. Donc, ça veut dire que l'organogel, on le forme dans une première étape, en dissolvant, température, je chauffe, je redescends. Et puis, j'imprègne mon précurseur de phase minérale ou de phase hybride ou de polymère. Une seconde possibilité, c'est de tout faire en une étape, de se mettre dans les conditions où je vais former en one pot, à la fois en mélangeant les précurseurs de l'organogel et les précurseurs de la phase minérale ou hybride. Hein. Et puis une troisième possibilité que je décrirai vers la fin de l'exposé, où on va essentiellement créer des systèmes hybrides en jouant sur l'auto-assemblage de molécules qui elles-mêmes sont déjà organominérales. Et dans ce cas-là, le précurseur gélifiant elle peut être lui-même un composé hybride. Et les réseaux formés, vous allez voir, à la fois ça peut être un réseau simplement, avec des interactions non covalentes, mais ça peut être également un réseau qui couple des interactions non covalentes, donc comme dans les organogels, et qui associe également, qui est fixé au niveau du composé via l'utilisation de liaisons covalentes. Donc je vais décrire tout d'abord en fait des réplications des organogels, hein, et puis ensuite je passerai aux derniers exemples. Donc ça permet d'obtenir des répliques absolument extraordinaires. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail des procédés. Donc, la post-imprégnation, on utilise donc un organogel préformé, donc le solvant, l'organogel, le catalyseur. Je franchis la transition sol-gel, je gélifie, j'obtiens mes fibres. Et à ce moment-là, j'ajoute le précurseur sol-gel. Alors, bien évidemment, le précurseur sol-gel a besoin de s'hydrolyser et de se condenser pour former le réseau. Donc là, soit je choisis un processus purement non hydrolytique. Et ça, c'est un bon cas de figure, parce qu'en général, dans les organogels, l'eau est souvent une gêne à la gélification. Soit l'eau, qui est marquée ici entre parenthèses, est introduite simplement par l'humidité ou au moment du traitement thermique final. Ça, c'est un petit peu les options que l'on trouve dans la littérature. Donc, on forme l'organogel. Là, on a mis un colorant en plus par rapport à la silice. Vous voyez, donc là, vous imprégnez le système et vous obtenez finalement, après transcription, un système minéralisé. Et donc, l'organogel peut être éliminé. En général, on préfère l'élimination par traitement thermique, dans de nombreux cas, quand on peut, hein, je dirais, quand on veut chercher du minéral. Simplement parce que le traitement thermique permet également de consolider la structure lorsque en fait, on l'isole du gabarit formé par l'organogélificateur. Donc la seconde façon de faire, donc co-assemblage in situ en voie directe, donc là c'est un mélange global, gélification et condensation sont simultanées pour obtenir à nouveau un gel xérogel hybride. Et on élimine finalement, soit par lavage, soit par calcination, le réseau, l'empreinte, le gabarit qui nous a servi d'empreinte justement, pardon, pour former le réseau minéral. Alors au niveau donc des cas de figure, les cas principaux pour justement minéraliser des systèmes. Donc, dans la symbolique, j'ai pris en rose en fait les précurseurs minéraux. Donc par exemple des silicates, hein, et puis bon, le gabarit fibreux. Donc on peut en fait décorer la fibre à l'extérieur, hein, donc pour obtenir des fibres creuses ou des tubules. Bon, ça dépend du mode de procédé qu'on va choisir. On peut également décorer à l'intérieur, donc faire entrer à l'intérieur de la fibre, si elle est bien fonctionnalisée, la partie minérale et obtenir en fait des fibres uniques, qui sont en fait très souvent le résultat de petits agrégats de billes, par exemple de billes de silice. Où on peut avoir une minéralisation globale, endo et exo, ça, je dirais, dans lesquels finalement on forme plutôt des fagots de fibres ou de tubules. Et ça, c'est souvent le cas de figure que l'on obtient si on ne prend pas de précautions, et en particulier si on fait une post-synthèse. Hein. Alors, donc, voici quelques exemples. Vous voyez, ce sont des fibres creuses de silice. Ça, ce sont des fibres uniques de CDS, de sulfure de cadmium. Et ici, ce sont des fagots de nanotubes, mais qui sont relativement bien isolés, d'organosilice. Alors, au niveau donc, des interactions, eh bien, il est évident que dans toutes les synthèses, je dirais, one pot, vous allez avoir à gérer à la fois les interactions supramoléculaires, gélifiant-gélifiant et gélifiant-solvant. Et donc, je vous rappelle que ça, c'est... il faut réussir à faire travailler en concert un certain nombre d'interactions faibles mais coopératives, et en même temps, vous avez à contrôler les processus d'hydrolyse et de condensation de votre réseau minéral. Et donc, en fait, ces deux assemblages doivent être coopératifs, mais ils sont également compétitifs. Et donc, en fait, ça va dépendre de la nature du précurseur, de sa réactivité, donc des choses qui sont bien connues en chimie sol-gel, également la présence d'invités exogènes. La réactivité peut être contrôlée par la température, le pH et l'utilisation de catalyseurs, mais également un facteur qui est important sur la qualité de la réplique et la robustesse de la réplique, également l'étendue de la réplique, c'est également la vitesse de refroidissement que l'on fait, qui permet de gérer la formation de l'organogel lorsque l'organogélifiant, le solvant et le précurseur minéral sont mélangés. En particulier, il va falloir gérer au mieux les interactions favorables à la transcription, et ces interactions vont bien entendu dépendre finalement de la nature du métal qui est utilisé pour la minéralisation. Alors donc, les interactions, je dirais, on retrouve un petit peu les interactions qui sont décrites pour les processus d'auto-assemblage des mésoporeux, quelque part, ce qui est normal. Hein, donc, en fait, si j'imagine, je modélise une une fibre par cette tubule et puis un réseau de silice en croissance, eh bien, je peux en fait avoir des interactions favorables directes ou indirectes via des interactions électrostatiques en fonction de la nature des groupements ou bien si j'hybride mes silices avec des organosilanes. Je peux également avoir des interactions de type donneur-accepteur, donc, et puis des interactions par liaison hydrogène. Je dirais ça, ce sont de bons vecteurs pour un assemblage coopératif. Ou bien, dans le cadre des métaux de transition, bien entendu, j'ai toutes ces possibilités-là. Et en plus, bon, j'ai les possibilités d'engager en fait, des liaisons de coordination avec les alkoxydes métalliques qui, ont, en général, vous savez, ont des coordinances insaturées, donc ont des affinités pour en fait, toutes les donneurs ou tout ce qui est tous les groupements qui vont avoir un caractère base de Lewis. Et bien évidemment, dans tout ce qui est interaction électrostatique, le point isoélectrique de l'oxyde formé va être très important par rapport aux conditions dans lesquelles je vais élaborer mon système et comment je vais régler mes charges. Et bien évidemment, la silice, vous savez tous que ça a un point isoélectrique très bas de l'ordre de 2, mais dès que je vais avoir à peu près tous les métaux de transition du titane, je dirais au niobium, même bon, les systèmes à base d'aluminium, je vais avoir, ou le fer, je vais avoir des points isoélectriques beaucoup plus hauts, et à ce moment-là, donc, mes conditions de régulation de l'interface vont énormément dépendre de comment je peux ajuster ces charges et donc le pH. Alors, au niveau donc, des mécanismes de transcription, en fait, il y a deux mécanismes importants. Soit, en fait, on fait une nucléation en solution, et en général, ben, le réseau de fibres est complètement englobé par le minéral, et on obtient en général des rubans mésoporeux, des tubes épais, des fagots de fibres. Mais si on veut vraiment faire une transcription, très fine, qui peut être très intéressante à différents niveaux, d'une part parce que ça permet un meilleur contrôle, mais également pour les chimistes en supramoléculaire, ça leur permet de révéler très finement en fait, la structure de l'agrégat. C'est également une information analytique. Dans ce cas-là, si vous voulez faire des choses, beaucoup plus fines, à ce moment-là, il faut favoriser des mécanismes de nucléation en surface. Et c'est là que l'ajustement des balances de charge et également des réseaux de liaison hydrogène sont très, très, très importants. Donc, en contrôlant finalement ces processus de nucléation en surface, on peut faire des fibres uniques totalement enrobées, des fagots hélicoïdaux qui eux-mêmes en fait, peuvent être composés. Vous voyez, chaque brin peut être constitué d'un ensemble de nanotubes. Donc, au jour d'aujourd'hui, en contrôlant ces balances d'interaction, eh bien, on peut arriver à faire des réplications très très fines. Évidemment, derrière ces réplications, en ce qui concerne le développement de matériaux, il y a les conditions de vieillissement, conditions de séchage et de traitement thermique, mais je ne rentrerai pas dans ce genre de détails. Au niveau donc, de quelques exemples qui permettent d'assurer des belles répliques de silice en contrôlant finalement les paramètres d'interaction. Vous voyez, donc, ce gélifiant, il est évident que cette molécule peut donner un réseau de liaison hydrogène. Vous avez également des groupements qui ont un comportement acido-basique, donc qui sont des bases. Et donc, ce système donne de très beaux gels, en fait, dans l'acétonitrile ou dans l'éthanol. L'éthanol, c'est très intéressant parce que c'est un des solvants, les plus communs, utilisés de façon la plus commune dans les hydrolyses d'alkoxyde en particulier. Donc, la condensation, par exemple, de la silice en synthèse directe à partir donc, de ce réseau d'organogélifiants va énormément dépendre du pH, puisque il y a le PUE de la silice qui est important. Le pH va également jouer sur la protéination de ces espèces. Et donc, vous allez renforcer, pour certains pH, finalement, les interactions entre votre silice en croissance et la structure développée par l'organogénateur. Et éventuellement, le pH va jouer également sur la catalyse, mais à deux niveaux. C'est-à-dire, si vous êtes en pH relativement acide, vous allez avoir une catalyse possible du réseau de silice, basique également, mais également, si vous êtes dans des pH où vous protonez finalement, où vous ne protonez pas certains groupements azotés, vous savez très bien que les groupements azotés sont de très bons catalyseurs de substitution nucléophile assistée sur le centre silicium. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des... Par exemple, à pH 8, où les interactions électrostatiques sont mal réglées, puisque globalement, il n'y a pas de charge sur ce système-là, et en fait, la silice on est au-dessus de 2, donc elle est négative. Donc vous obtenez plutôt des systèmes en amas et en phagos. Par contre, lorsque vous régulez le pH au-dessus du PIE de telle façon à être à la fois négatif en silice et commencer à protoner finalement les, certains groupements de la molécule d'organogélation, à ce moment-là, vous avez des fibres parfaitement gainées et bien dispersées, faites en silice. Et quand vous regardez l'agrandissement, vous voyez bien que ces fibres, en fait, vous avez la fibre centrale ici et vous avez vraiment décoré en fait, tout l'extérieur avec de la silice de façon relativement propre. Alors, d'autres exemples, justement, en contrôlant finalement très très finement ces interactions, on peut obtenir des morphologies et des répliques très originales. Ça, c'est un travail qui a également été fait dans le groupe de Shinkai. Vous voyez, à nouveau, la molécule stéroïde Stilben et en bout est fixée un cryptant dans lequel vous allez avoir des possibilités finalement de piégeage de cations. Ça va être intéressant puisque vous allez pouvoir jouer également sur les charges ou bien simplement via la protonation, hein, vous pouvez également jouer sur les charges. Et en particulier, des organogels efficaces sont obtenus dans des zones où vous avez une croissance de silice négative et également dans lesquelles vous incluez un cation en fait, qui vient, s'inclure en fait, dans ce cryptant et donc s'associer via des interactions électrostatiques. L'organogel peut interagir de façon électrostatique avec la silice négative en croissance et cette tête de cryptant chargée positivement. Alors, en suivant ce genre de stratégie, vous voyez, on peut obtenir des systèmes tubulaires ou des systèmes qui ressemblent finalement très très fins, qui correspondent à des cigarettes russes en silice. Et donc voici quelques exemples. Vous voyez, là, on voit vraiment que le système est enroulé. Ça, c'est après traitement thermique. Donc, c'est plus que de la silice. Et donc, il y a vraiment un contrôle en fait, de ces interactions qui permet en fait, une bonne coopérativité d'obtenir un enroulement de feuillets et une polymérisation de la silice qui sont synchrones. Et donc, ça, ce sont à nouveau les critères importants. Donc, sur ce transparent, ce que je vous montre, c'est finalement un des modèles de croissance qui avait été un cartoon, je dirais, comme disaient les anglo-saxons, qui montre en fait la création in situ à la fois des feuillets d'organogel, ces feuillets qui sont eux chargés positivement, puisque dans la partie cryptante, il y a des cations, et en fait la silice qui vous voyez, à pH légèrement supérieur à 3 dans la zone où la croissance de la silice générée est négative pour optimiser finalement les interactions, dans ce cas-là électrostatiques, entre les silicates en croissance et la formation du gel via l'assemblage, l'auto-assemblage de l'organogélifiant. Alors, il y a énormément de travaux qui concernent en fait, la réplique, des répliques chirales, en fait, la formation de systèmes hélicoïdaux en particulier, à partir du moment où on choisit des molécules qui en fait, sont porteuses de chiralité. Donc, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur des composés à base de tartrate, mais il y en a d'autres. Ce sont, je dirais, sous forme de sel, ce sont des gélifiants très, très efficaces. Et ce que vous voyez sur ce transparent après calcination, c'est la formation de ces doubles lisses. En fait, ce sont des répliques de silice où vous voyez un début donc, de la formation de ces hélices qui traduit finalement la présence finalement, de chiralité dans les assemblages supramoléculaires créés par des molécules elles-mêmes qui sont chirales. Alors, d'autres exemples concernant justement l'induction, la réplication de chiralité au niveau du minéral. Vous voyez, avec ces fameuses molécules à base de cyclohexane et de fonctions amides particulièrement intéressantes parce qu'elles développent des liaisons hydrogènes. Donc, ici, vous avez des centres chiro. Vous avez 4 groupements différents sur le carbone. Et vous avez toujours, vous voyez, une chaîne un petit peu plus longue qui va permettre de créer, je dirais, à la fois des interactions de Van der Waals, mais également un certain degré de désordre. Et très souvent, en fait, peut-être que Yvan nous donnera un peu plus d'explications, très souvent, dans les systèmes qui organogélifient de façon efficace, on trouve des couples. En fait, dans le cas présent, les deux peuvent gélifier, mais ce qui gélifie de façon très efficace les solvants, c'est en fait c'est le couple entre la molécule neutre et la molécule, je dirais, sous forme de sel, en fait, donc l'ammonium bromure équivalent. Et donc, en fonction donc, de la nature, de la chiralité en fait, des carbones, hein, donc, avec un mélange totalement air, eh bien, dans ce cas-là, vous obtenez donc, des gélifiants avec des hélices gauches. Si vous choisissez le mélange totalement S, la gélification et l'empreinte obtenue ensuite donnent des hélices droites. Donc ça, c'est le cliché obtenu par microscopie électronique à balayage. Et voici des photos obtenues par microscopie électronique en transmission. Mais bon, ce que vous voyez, il faut se méfier quand même, c'est que la transcription en fait, d'objets hélicoïdaux n'est pas une preuve. Enfin, ça veut dire qu'au niveau macroscopique, vous avez un hélicoïde. Si elles sont toutes gauche ou droite, ça veut dire qu'il y a une transcription de la chiralité, mais ça ne veut pas dire que le système peut avoir des réponses chirales. Et en particulier, il y a très peu de travaux à l'heure actuelle, j'en ai trouvé un, mais il y en a peut-être d'autres, où, en fait, le fait d'utiliser, de minéraliser un système, de le rendre chiral comme de la silice, va induire, finalement, une chiralité à un deuxième ordre, par exemple, au niveau d'une réaction catalytique. Et donc, ça, c'est l'exemple que je vous montre. Donc, c'est la réaction donc, d'hydrogénation de cette fonction aldéhyde, avec ce type de composé, qui est faite soit en présence de silice avec des hélices gauches, et vous obtenez cet isomère-là, ou bien avec des hélices droites, et vous obtenez ces isomères-là. Et donc, ce qu'il est reporté dans ce travail, à nouveau, je dirais, dans le groupe de Shinkai, mais en collaboration avec d'autres équipes japonaises, eh bien, c'est que l'enrichissement énantiomérique est loin d'être négligeable, c'est très bon, c'est de l'ordre de 97% sur l'isomère, avec des rendements de synthèse de l'ordre de 95 à 98%. Mais il y a encore, à mon avis, enfin, à ma connaissance, peut-être que j'en oublie, très, très peu de données qui montrent la jonction entre la chiralité observée à une échelle nanométrique ou micronique via les hélices et des réponses, en fait, spécifiques chirales via, par exemple, une réaction de catalyse. Alors, d'autres types de systèmes, bien entendu. Hein, je vous ai dit, la silice, c'est le système le plus étudié parce que, quelque part, c'est le plus simple. Hein, mais bon, on peut également utiliser, vous voyez, des systèmes à nouveau à base de cyclohexanes et de fonctions amides, pour comme gabarit, donc ça donne des organogels dans l'éthanol, pour utiliser ces systèmes comme répliques, hein, pour faire des répliques d'autres types d'oxydes de métaux de transition, par exemple. Donc ça, ce sont des oxydes de tantale qui ont été synthétisés, vous voyez, après calcination. Hein, donc ce sont des photos où vous avez à la fois des hélices gauches ou des hélices droites, à nouveau en fonction du choix du carbone, de la chiralité portée par les carbones du cycle cyclohexane. Donc ça, c'est un exemple d'agrandissement au niveau donc, de microscopie électronique en transmission. Et vous voyez qu'à nouveau, ce système a été créé en contrôlant la nucléation au niveau de la surface et on obtient finalement un revêtement très très propre de silice autour en fait, du gabarit formé par l'organogélateur. Alors voilà, donc grande variété de systèmes, hein, des oxydes métalliques énormément. Bon, je ne rentre pas dans les détails des molécules. Donc, de la silice, des systèmes à base d'oxyde d'aluminium, des tubes creux de TiO2, des oxydes de vanadium, également, bon, vous voyez même des binaires avec tubes creux et, je dirais, réplique externe dans un binaire TiO2, Z0,2. Mais il n'y a pas que les oxydes qui sont accessibles par ce mode de réplication. Il y a bien entendu d'autres types de matériaux, donc des métaux tels que l'argent, vous voyez ici vous avez un revêtement en nickel, des chalcogénures, des sulfures ou de cadmium ou de nickel. Je n'ai pas encore vu de phosphure, mais peut-être qu'un jour ça viendra, mais globalement, bon, les répliques quand même, dans ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que les répliques, en fait, si j'ai à faire un classement sur la qualité des répliques et sur l'esthétique des répliques, je dirais la silice en tête, puis ensuite les métaux de transition, les oxydes, et derrière, en fait, les systèmes métalliques ou les systèmes à base de chalcogénure, ce sont des répliques qui sont plus difficiles et également, au niveau du rendement de réplication, le rendement de réplication peut être très bien assuré sur les systèmes à base d'oxyde et beaucoup plus difficile. Là, vous voyez une belle photo en un mot. Hein, donc, il faut faire attention à ça. Alors, les organogélifiants, justement, on peut utiliser non pas des silices simples, mais des silices hybrides, en prenant en fait un organosilane comme partenaire à la gélification. Et donc ça, ce sont des études, vous voyez, qui ont été faites au laboratoire il y a quelques temps, en utilisant des organogélateurs, les fameuses phénazines dont je vous parlais précédemment. Donc c'est un travail qui a été fait en collaboration avec les collègues de Bordeaux, en particulier avec Jean-Luc Pozzo. Et donc, en fait, ce sont des molécules que nous avions choisies parce que ce sont de très, très bons gélifiants, des petits alcools, en particulier le méthanol, l'éthanol, qui sont à nouveau les solvants que la communauté des matériaux sol-gel, sur lesquels la communauté des matériaux sol-gel a une nette préférence. Et donc, en fait, on peut choisir maintenant la nature du groupement R, R étant un modificateur de réseau, vous voyez, avec un groupement non linéaire, une fonction qui est latente, une fonction amine, une fonction thiol, ou un formateur de réseau, soit un groupement métacrylate polymérisable, soit un groupement pyrrole polymérisable par voie oxydative. Donc en fait, ce sont des systèmes qui ont été développés dans le cadre de cette collaboration-là. Juste quelques exemples. Ces systèmes, lorsqu'on contrôle bien la croissance, permettent d'obtenir, vous voyez, des tiges très longues de plusieurs microns, mais ces tiges elles-mêmes sont dues à l'empilement multi-échelle de tubes qui eux-mêmes, à une résolution plus grande, sont en fait formés de nanotubes. Et lorsque l'on regarde un petit peu les propriétés, je dirais, de surface de ces systèmes, eh bien, d'une part, la qualité de l'organisation dépend de la nature du groupement R et du pH, hein, c'est la gestion des interactions. Mais pour, par exemple, si je prends R égale amine, on peut obtenir des matériaux sous forme de fibres multi-échelles de cette façon-là, avec des surfaces spécifiques qui sont de l'ordre de 240 mètres carrés par gramme, ce qui n'est pas le summum pour la silice. Je vous rappelle qu'une silice est facilement 500, voire 1000 mètres carrés par gramme pour les silices les plus poreuses. Mais c'est intéressant, la taille des pores est aux alentours de 4 nanomètres, mais les fonctions amines utilisées au départ sont post-fonctionnalisables. C'est-à-dire qu'on peut aller accrocher sur ces fibres des groupements fragiles, par exemple, dans une seconde étape. Alors maintenant, j'en arrive à la fin de mon exposé, et je vais vous parler des systèmes qui sont obtenus par auto-assemblage d'organogélifiants qui eux-mêmes sont organominéraux. Alors, par exemple, je vous ai montré beaucoup d'exemples avec cette molécule, en fait, ce cyclohexane porteur de fonction amide, et puis de chaîne. Alors, les parties que l'on va pouvoir garder, par exemple, c'est la partie, formateuse de l'organogel, un petit peu de chaîne alkyle, et la partie que je vais pouvoir modifier, c'est celle-ci. Alors, typiquement, voilà le genre de molécule qu'on peut synthétiser relativement facilement. Et donc, à la limite, je vais pouvoir former de l'organogélation grâce à cette partie-ci de la molécule et faire un ancrage covalent grâce à de la polymérisation. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par les collègues de Montpellier, Michel Van Schiemen et Joël Moreau. Donc à nouveau, de façon simplifiée, la molécule a toute une partie organogélifiante avec les fonctions urées et une partie minéralisante sur les extrémités. Donc là, je vais assez vite parce que c'est assez simple. Et donc on va pouvoir répliquer en fonction de la chiralité portée par ces deux carbones-là, des hélices gauches ou des hélices droites, en fonction justement de la symétrie de ces carbones. Et donc ça, c'est une façon de faire, donc, d'associer de façon covalente, en fait, des organogels, des systèmes d'organogels. Alors, une autre méthode, c'est d'utiliser finalement des briques construites par hydrolyse-condensation, des clusters, par exemple, ces clusters-là, François a énormément travaillé dessus au niveau du laboratoire. Donc, lorsque vous faites réagir l'acide butylstanoïque avec à peu près n'importe quel acide carboxylique, en excès, vous obtenez en fait ce cluster qu'on appelle le cluster type tambour. Donc, c'est un hexamère d'étain sur lequel, vous voyez, vous avez les groupements carboxyliques qui sont positionnés, avec les groupements alkyle ou fonctionnels vers l'extérieur. Et donc, ce type de cluster est un objet, je dirais, de façon simplifiée, on peut le voir comme un espèce de disque sur lequel je peux venir positionner sur l'extérieur, sur les ligands équatoriales, différents types de fonctionnalités et jouer finalement sur les interactions suprémoléculaires portées finalement par ces groupements R. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par Jean-François Nierengarten à Strasbourg. Et donc, vous voyez, ce système-là, dans le benzène, donne des organogels à des concentrations très, très faibles, hein, des organogels qui ressemblent finalement à des empilements de cristaux liquides. Hein. Ce que vous voyez ici, c'est le cliché de diffraction des rayons X, c'est clairement une phase hexagonale. Et au niveau donc, de la microstructure, en fait, ce sont des systèmes qui sont formés d'objets anisotropes, qui dans ce cas-là sont des aiguilles ou des fibres un peu courtes. Alors, une autre façon donc, de générer des organes, de l'organogélification en utilisant justement des composés hybrides, ça c'est un travail qui a été fait par Carraro, utilisant en fait des polyanions. Hein, je vous ai fait plusieurs cours où je vous ai parlé de polyanions. Dans le cas présent, donc, c'est un polyanion de type Strandberg, donc c'est un pentamolybdate, donc ce sont du molybdène engagé dans des octaèdres distors du l'oxygène, et ce pentamolybdate est complexé, vous voyez, par des fonctions phosphonates. Le phosphonate est bien connu pour être un complexant fort de la plupart des métaux de transition. Et donc, ce phosphonate s'accroche au niveau des sites molybdènes du cluster. Et ce phosphonate est porteur également, vous voyez, d'une fonction amine. Et donc, en fait, l'organogélation entre clusters a lieu par échange, finalement, de liaisons hydrogènes entre les fonctions amines du phosphonate et les nucléophiles, les oxygènes en fait, du cluster adjacent. Et donc, ça donne des réseaux. Dans les solvants peu polaires, ça donne des gels dont la structure modélisée est représentée sous cette forme-là. Donc, à nouveau, au niveau macroscopique, ces systèmes donnent de superbes fibres. Et donc, vous voyez, ces systèmes sont parfaitement sélectifs à la polarité du solvant. Hein, en particulier, tous les solvants trop polaires se mettent en compétition, finalement, avec le réseau de liaison hydrogène et ne donnent pas de gel, alors que les solvants relativement peu polaires permettent, finalement, d'obtenir des gels suffisamment robustes. À nouveau, donc, des systèmes organominéraux sur lesquels j'ai pas mal disserté dans les leçons précédentes, ce sont les fameux polymères de coordination qui donnent ces fameux systèmes microporeux, voire macroporeux, appelés MIL pour Lavoisier, MOF, Metal Organic Framework. En général, on obtient, en fait, par synthèse hydrothermale, des systèmes qui sont cristallins. Et donc, c'est ce dont je vous ai parlé à la leçon 3. Par contre, si vous mettez dans des conditions de température pas trop élevées, dans un solvant qui va pouvoir inhiber certaines fonctions de carboxylate via des réactions d'estérification, par exemple, à ce moment-là, donc, vous obtenez des gels qui, en fait, après échange, en fait, lavage et traitement en CO2 hypercritique, vous permettent de générer, vous voyez, des blocs d'aérogel. Alors, cet aérogel, en fait, c'est un matériau, c'est un polymère de coordination. Qui n'est pas cristallin, donc il n'y a aucune réponse cristalline. Les analyses, je dirais, chimiques ou spectroscopiques les plus simples vous montrent que finalement, ça correspondrait à un 1100, hein, dont je vous rappelle très rapidement la structure, mais en fait, ce qui assure finalement la gélification, c'est justement la création de défauts, et en particulier, environ 10% des groupements carboxylates ne sont pas accrochés au centre métallique et un grand nombre sont estérifiés. Et donc, c'est la création de ces défauts qui empêche finalement la cristallisation et la formation de ce type de gel. Alors, ces gels, ces gels que vous voyez sous forme d'un aérogel, dans un deuxième temps, peuvent servir à nouveau de gabarit, et être imprégné par exemple par des polymères, donc typiquement ce sont des copolymères à base de métacrylate. Donc on imprègne le gel de coordination par le polymère. Dans une deuxième étape, on poursuit on couple par polymérisation radiculaire les parties polymères organiques. Lavage et dissolution, c'est très simple dans le cas des MOF, puisque ce sont des polymères de coordination. Donc, si je rajoute dans mon solvant un complexant fort de type EDTA, eh bien, je vais décrocher tous les liens ionocovalents, et donc je vais récupérer très facilement l'empreinte, enfin ce qui reste, c'est-à-dire le polymère organique. Donc, vous voyez, c'est une façon de faire, par exemple, des colonnes chromatographiques en polymère en répliquant, finalement, à deux échelles. La première réplication, c'est l'organogel vers le polymère de coordination et du polymère de coordination vers le polymère organique pour obtenir ces systèmes qui sont assez faciles à mettre en forme. Et donc, ce sont des colonnes de chromatographie qui sont testées, par exemple, dans des séparations de biomolécules, et là c'est un exemple que j'ai trouvé sur la séparation de protéines. Voilà. Donc, en fait, mon dernier exemple, et je finirai sur celui-là, c'est en fait l'utilisation combinée de l'organogélation et de la minéralisation pour mettre à jour et pour mieux caractériser, finalement, des édifices supramoléculaires. Vous savez que les porphyrines, par exemple, sont connues pour créer des empilements de type sandwich ou même s'agréger. Hein. Ce sont des systèmes qui, souvent, sont très peu solubles. Et en particulier, en fonction, je dirais, de la nature du cycle, des groupements portés par les... C'est une tétraphénylporphyrine portée par les groupements aromatiques extérieurs et, en fait, également dépendant de ce que vous mettez en fait dans la cavité, métal ou pas métal, vous allez avoir plusieurs modes d'agrégation, soit sous des modes d'agrégation, ce qu'on appelle des agrégats J. En fait, ce sont des agrégats qui, en général, optiquement, par rapport aux monomères isolés, font un shift bathochrome. Et donc, ces agrégats J ou H dont je vais parler, c'est vraiment très classique dans tous les colorants. Hein. Ce sont des systèmes qui sont très classiques. Et donc, le fait d'utiliser ces systèmes porphyriniques dans certains solvants, former des organogels, mais également, vous voyez, sur la partie périphérique, on aide à la formation de l'organogel via, en fait, une liaison urée, donc une liaison directionnelle au niveau des liaisons hydrogènes, plus, en fait, un groupement... triétoxycylyl qui va permettre de polycondenser, ça permet de bien fixer, de visualiser finalement ce type d'agrégat qui ont en fait dans le cas présent, en fait lorsque le cycle porphyrinique est vide, en fait vous obtenez des structures en feuillet 2D qui correspondent justement à des agrégats J. Lorsque vous mettez du cuivre à l'intérieur, bien évidemment vous allez avoir des interactions, je dirais, entre centres métalliques, hein, puisque c'est du cuivre D2. Ça veut dire qu'au niveau de la configuration électronique, vous êtes dans un cas de D9. Et à ce moment-là, vous allez faire des gels que vous allez solidifier par polymérisation minérale en formant des agrégats H, en fait des empilements, je dirais, des empilements parfaits de porphyrine et donc qui donnent ces fameuses structures fibreuses. Donc, également, au niveau des propriétés mécaniques des gels résultants, évidemment, le fait de jouer à la fois sur des interactions, je dirais, non covalentes et puis avoir des points de ciment, des points de fixation via une polymérisation de la silice, ça permet d'obtenir des matériaux qui ont des modules mécaniques 100 fois plus forts que les organogels traditionnels et puis également des températures de transition sol-gel assez élevées avec 160 degrés. Je vous rappelle que quand même 160 degrés, c'est une température raisonnable pour ce genre de composés organiques. Les porphyrines et phtalocyanines sont des systèmes qui sont relativement stables en température par rapport à d'autres groupements organiques. Donc, le couplage en fait, organogel-minéralisation, ça vous permet finalement de caractériser et de créer des matériaux avec des formes très originales qui sont des fois beaucoup plus modulables et beaucoup plus accessibles par la synthèse supramoléculaire que par les voies de synthèse minérale. Donc ça, c'est un des points forts sur lesquels je voulais insister. Et à nouveau, bon, les interactions supramoléculaires, délicatesse, finesse, précision, subtilité. J'aime bien cette image, je suis désolé, je vous la montre deux fois. Donc ça ressemble un petit peu à la précision et à la finesse en fait, d'un oiseau-mouche qui bute une nymphore. Mais la base en fait, de la création et de de l'ingénierie moléculaire en fait, de ces organogels, c'est une très bonne connaissance de la chimie organique, de la construction, des modules de construction, de l'importance de certains modules vis-à-vis de la manière de gérer finalement les interactions entre molécules d'organogélifiants et également entre ces molécules et le solvant hein, pour obtenir en fait, des matériaux avec une bonne reproductibilité et, et des structures un petit peu sur mesure. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai invité Yvan Huc, hein, qui est donc directeur de recherche au CNRS. Donc, il est directeur de recherche au CNRS et co-directeur de l'Institut européen de chimie et de biologie à Bordeaux. Hein. Donc, c'est un chercheur qui développe depuis quelques années de façon très productive une superbe chimie basée justement sur l'ingénierie moléculaire d'architecture organique. Vous allez voir en fait sa démarche qui est très, je dirais, constructive. Alors au niveau de son parcours, il a un parcours assez original, vous voyez. Thèse en partie à l'ENS et beaucoup au MIT, entre deux sites. Un petit séjour, petit, pas si petit que ça, un an, à Strasbourg, donc je pense avec Jean-Marie Denne à l'époque. Puis ensuite, très jeune, on crée une équipe de chimie supramoléculaire à Bordeaux et on démarre des sujets avec beaucoup de passion. Donc, ces activités de recherche, c'est de la chimie combinatoire dynamique, il va vous en parler, les gels organiques et les surfactants géminiers, les foldamères, en fait, je dirais, toute la compréhension chimique et de la compréhension de toute cette chimie supramoléculaire qui permet finalement de générer des édifices complexes, variés et sur mesure. Voilà, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui mon cours et je vous remercie de votre attention. On va faire une petite coupure de quelques minutes.